Le Capital, livre premier, première section, chapitre premier, grand 3, forme de la valeur. Les marchandises viennent au monde sous la forme de valeurs d'usage ou de matières marchandes, telles que fer, toile, laine, etc. C'est là tout bonnement leur forme naturelle. Cependant, elles ne sont marchandises que parce qu'elles sont deux choses à la fois, objets d'utilité et porte-valeur. Elles ne peuvent donc entrer dans la circulation qu'autant qu'elles se présentent sous une double forme, leur forme de nature et leur forme de valeur. Note de bas de page. Les économistes peu nombreux qui ont cherché, comme Bailey, à faire l'analyse de la forme de la valeur, ne pouvaient arriver à aucun résultat. Premièrement, parce qu'ils confondent toujours la valeur avec sa forme. Secondement, parce que, sous l'influence grossière de la pratique bourgeoise, ils se préoccupent dès l'abord exclusivement de la quantité. Ouvrez les guillemets. « The command of quantity, trois petits points, constitutes value. » Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. S. Bailey, Money and its vicissitudes, London, 1837, page 11, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, les marchandises ne peuvent donc entrer dans la circulation qu'autant qu'elles se présentent sous une double forme, leur forme de nature et leur forme de valeur. La réalité que possède la valeur de la marchandise diffère en ceci de l'ami de Falstaff, la veuve l'éveillée, qu'on ne sait où la prendre. Par un contraste des plus criants avec la grossièreté du corps de la marchandise, il n'est pas un atome de matière qui pénètre dans sa valeur. On peut donc tourner et retourner à volonté une marchandise prise à part. En tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable. Si l'on se souvient cependant que les valeurs des marchandises n'ont qu'une réalité purement sociale, qu'elles ne l'acquièrent qu'en tant qu'elles sont des expressions de la même unité sociale, du travail humain, il devient évident que cette réalité sociale ne peut se manifester aussi que dans les transactions sociales, dans les rapports des marchandises les unes avec les autres. En fait, nous sommes partis de la valeur d'échange ou du rapport d'échange des marchandises pour trouver les traces de leur valeur qui y est cachée. Il nous faut revenir maintenant à cette forme sous laquelle la valeur nous est d'abord apparue. Chacun sait, lors même qu'il ne sait rien autre chose, que les marchandises possèdent une forme valeur particulière qui contraste de la manière la plus éclatante avec leur forme naturelle diverse, la forme monnaie. Il s'agit maintenant de faire ce que l'économie bourgeoise n'a jamais essayé. Il s'agit de fournir la genèse de la forme monnaie, c'est-à-dire de développer l'expression de la valeur contenue dans le rapport de valeur des marchandises depuis son ébauche la plus simple et la moins apparente jusqu'à cette forme monnaie qui saute aux yeux de tout le monde. En même temps sera résolue et disparaîtra l'énigme de la monnaie. En général, les marchandises n'ont pas d'autre rapport entre elles qu'un rapport de valeur. Et le rapport de valeur le plus simple est évidemment celui d'une marchandise avec une autre marchandise d'espèce différente, n'importe laquelle. Le rapport de valeur ou d'échange de deux marchandises fournit donc, pour une marchandise, l'expression de valeur la plus simple. Grand A, forme simple ou accidentelle de la valeur. X marchandise grand A égale Y marchandise grand B. où X marchandise grand A vaut Y marchandise grand B. Ouvrez la parenthèse. 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile ont la valeur d'un habit. Fermez la parenthèse. Le mystère de toute forme de valeur gît dans cette forme simple. Aussi, c'est dans son analyse que se trouve la difficulté. Petit a. Les deux pôles de l'expression de la valeur, sa forme relative et sa forme équivalente. Deux marchandises différentes, grand A et grand B, et, dans l'exemple que nous avons choisi, la toile et l'habit, jouent ici évidemment deux rôles distincts. La toile exprime sa valeur dans l'habit, et celui-ci sert de matière à cette expression. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La valeur de la première est exposée comme valeur relative, la seconde marchandise fonctionne comme équivalent. La forme relative et la forme équivalente sont deux aspects corrélatifs, inséparables, mais en même temps des extrêmes opposés, exclusifs l'un de l'autre, c'est-à-dire des pôles de la même expression de la valeur. Ils se distribuent toujours entre les diverses marchandises que cette expression met en rapport. Cette équation 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile exprime seulement que 20 mètres de toile ne sont pas autre chose que 20 mètres de toile, c'est-à-dire ne sont qu'une certaine somme d'une valeur d'usage. La valeur de la toile ne peut donc être exprimée que dans une autre marchandise, c'est-à-dire relativement. Cela suppose que cette autre marchandise se trouve en face d'elle sous forme d'équivalent. D'un autre côté, la marchandise qui figure comme équivalent ne peut se trouver à la fois sous forme de valeur relative. Elle n'exprime pas sa valeur, mais fournit seulement la matière pour l'expression de la valeur de la première marchandise. L'expression 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile valent un habit renferme, il est vrai, la réciproque. Un habit égale 20 mètres de toile ou un habit vaut 20 mètres de toile. Mais il me faut alors renverser l'équation pour exprimer relativement la valeur de l'habit. Et, dès que je le fais, la toile devient équivalent à sa place. Une même marchandise ne peut donc revêtir simultanément ces deux formes dans la même expression de la valeur. Ces deux formes s'excluent polariquement. Petit b, la forme relative de la valeur. Alpha, contenu de cette forme. Pour trouver comment l'expression simple de la valeur d'une marchandise est contenue dans le rapport de valeur de deux marchandises, il faut d'abord l'examiner, abstraction faite de son côté quantitatif. C'est le contraire qu'on fait en général en envisageant dans le rapport de valeur exclusivement la proportion dans laquelle des quantités déterminées de deux sortes de marchandises sont dites égales entre elles. On oublie que des choses différentes ne peuvent être comparées quantitativement qu'après avoir été ramenées à la même unité. Alors seulement, elles ont le même dénominateur et deviennent commensurables. Que 20 mètres de toile égale un habit, ou égale 20, ou égale X habits. C'est-à-dire qu'une quantité donnée de toile vaille plus ou moins d'habits. Une proportion de ce genre implique toujours que l'habit et la toile, comme grandeur de valeur, sont des expressions de la même unité. Toile égale habit. Voilà le fondement de l'équation. Mais les deux marchandises, dont la qualité égale, l'essence identique, est ainsi affirmée, n'y jouent pas le même rôle. Ce n'est que la valeur de la toile qui s'y trouve exprimée. Et comment ? En la comparant à une marchandise d'une espèce différente, l'habit, comme son équivalent, c'est-à-dire une chose qui peut la remplacer ou être échangeable avec elle. Il est d'abord évident que l'habit entre dans ce rapport exclusivement comme forme d'existence de la valeur, car ce n'est qu'en exprimant de la valeur qu'il peut figurer comme valeur vis-à-vis d'une autre marchandise. De l'autre côté, le propre valoir de la toile se montre ici, ou acquiert une expression distincte. En effet, la valeur habit pourrait-elle être mise en équation avec la toile ou lui servir d'équivalent, si celle-ci n'était pas elle-même valeur? Empruntons une analogie à la chimie. L'acide butyrique et le formiate de propyle sont deux corps qui diffèrent d'apparence aussi bien que de qualités physiques et chimiques. Néanmoins, ils contiennent les mêmes éléments, carbone, hydrogène et oxygène. En outre, ils les contiennent dans la même proportion de C4H8O2. Maintenant, si on mettait le formiate de propyle en équation avec l'acide butyrique, ou si on en faisait l'équivalent, le formiate de propyle ne figurerait dans ce rapport que comme forme d'existence de C4H8O2, c'est-à-dire de la substance qui lui est commune avec l'acide. Une équation où le formiate de propyle jouerait le rôle d'équivalent de l'acide butyrique serait donc une manière un peu gauche d'exprimer la substance de l'acide comme quelque chose de tout à fait distinct de sa forme corporelle. Si nous disons, en tant que valeur, toutes les marchandises ne sont que du travail humain cristallisé, nous les ramenons, par notre analyse, à l'abstraction valeur. Mais, avant comme après, elles ne possèdent qu'une seule forme, leur forme naturelle d'objets utiles. Il en est tout autrement dès qu'une marchandise est mise en rapport de valeur avec une autre marchandise. Dès ce moment, son caractère de valeur ressort et s'affirme comme sa propriété inhérente qui détermine sa relation avec l'autre marchandise. L'habit étant posé l'équivalent de la toile, le travail contenu dans l'habit est affirmé comme identique avec le travail contenu dans la toile. Il est vrai que la taille se distingue du tissage, mais son équation avec le tissage la ramène par le fait à ce qu'elle a de réellement commun avec lui, à son caractère de travail humain. C'est une manière détournée d'exprimer que le tissage, en tant qu'il tisse de la valeur, ne se distingue en rien de la taille des vêtements, c'est-à-dire est du travail humain abstrait. Cette équation exprime donc le caractère spécifique du travail qui constitue la valeur de la toile. Il ne suffit pas cependant d'exprimer le caractère spécifique du travail qui fait la valeur de la toile. La force de travail de l'homme à l'état fluide ou le travail humain forme bien de la valeur, mais n'est pas valeur. Il ne devient valeur qu'à l'état coagulé sous la forme d'un objet. Ainsi, les conditions qu'il faut remplir pour exprimer la valeur de la toile paraissent se contredire elles-mêmes. D'un côté, il faut la représenter comme une pure condensation du travail humain abstrait, car, en tant que valeur, la marchandise n'a pas d'autre réalité. En même temps, cette condensation doit revêtir la forme d'un objet visiblement distinct de la toile elle-même et qui, tout en lui appartenant, lui soit commune avec une autre marchandise. Ce problème est déjà résolu. En effet, nous avons vu que, dès qu'il est posé comme équivalent, l'habit n'a plus besoin de passeport pour constater son caractère de valeur. Dans ce rôle, sa propre forme d'existence devient une forme d'existence de la valeur. Cependant, l'habit, le corps de la marchandise habit, n'est qu'une simple valeur d'usage. Un habit exprime aussi peu de valeur que le premier morceau de toile venu. Cela prouve tout simplement que, dans le rapport de valeur de la toile, il signifie davantage qu'en dehors de ce rapport. De même que maint personnage important dans un costume galonné devient plus qu'insignifiant si les galons lui manquent. Dans la production de l'habit, de la force humaine a été dépensée, en fait, sous une forme particulière. Du travail humain est donc accumulé en lui. À ce point de vue, l'habit est porte-valeur, bien qu'il ne laisse pas percer cette qualité à travers la transparence de ses fils, si râpés qu'ils soient. Et, dans le rapport de valeur de la toile, il ne signifie pas autre chose. Malgré son extérieur si bien boutonné, la toile a reconnu en lui une âme sœur pleine de valeur. C'est le côté platonique de l'affaire. En réalité, l'habit ne peut point représenter dans ses relations extérieures la valeur sans que la valeur prenne en même temps l'aspect d'un habit. C'est ainsi que le particulier grand A ne saurait représenter pour l'individu grand B une majesté sans que la majesté, aux yeux de grand B, revête immédiatement et la figure et le corps de grand A. C'est pour cela probablement qu'elle change avec chaque nouveau père du peuple, de visage, de cheveux et de maintes autres choses. Le rapport qui fait de l'habit l'équivalent de la toile, métamorphose donc la forme habit en forme valeur de la toile, ou exprime la valeur de la toile dans la valeur d'usage de l'habit. En tant que valeur d'usage, la toile est un objet sensiblement différent de l'habit. En tant que valeur, elle est chose égale à l'habit et en a l'aspect, comme cela est clairement prouvé par l'équivalence de l'habit avec elle. Sa propriété de valoir apparaît dans son égalité avec l'habit, comme la nature moutonnière du chrétien dans sa ressemblance avec l'agneau de Dieu. Comme on le voit, tout ce que l'analyse de la valeur nous avait révélé auparavant, la toile elle-même le dit, dès qu'elle entre en société avec une autre marchandise, l'habit. Seulement, elle ne trahit ses pensées que dans le langage qui lui est familier, le langage des marchandises. Pour exprimer que sa valeur vient du travail humain, dans sa propriété abstraite, elle dit que l'habit, en tant qu'il vaut autant qu'elle, c'est-à-dire est valeur, se compose du même travail qu'elle-même. Pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est distincte de son corps raide et filamenteux, elle dit que la valeur a l'aspect d'un habit, et que, par conséquent, elle-même, comme chose valable, ressemble à l'habit comme un œuf à un autre. Remarquons en passant que la langue des marchandises possède, outre l'hébreu, beaucoup d'autres dialectes et patois, plus ou moins corrects. Le mot allemand « Wertsein », entre guillemets, par exemple, exprime moins nettement que le verbe roman « valere » ou « valere » et le français « valoir » que l'affirmation de l'équivalence de la marchandise grand B avec la marchandise grand A est l'expression propre de la valeur de cette dernière. Paris vaut bien une messe. En vertu du rapport de valeur, la forme naturelle de la marchandise grand B devient la forme de valeur de la marchandise grand A, ou bien le corps de grand B devient pour grand A le miroir de sa valeur. Note de bas de page. Sous un certain rapport, il en est de l'homme comme de la marchandise. Comme il ne vient point au monde avec un miroir, ni en philosophe à la Fichte, dont le moi n'a besoin de rien pour s'affirmer, il se mire et se reconnaît d'abord seulement dans un autre homme. Aussi cet autre, avec peau et poils, lui semble-t-il la forme phénoménale du genre homme. Fin de la note de bas de page. Donc, en vertu du rapport de valeur, la forme naturelle de la marchandise grand B devient la forme de valeur de la marchandise grand A, ou bien le corps de grand B devient pour grand A le miroir de sa valeur. La valeur de la marchandise grand A, ainsi exprimée dans la valeur d'usage de la marchandise grand B, acquiert la forme de la valeur relative. Bêta, détermination quantitative de la forme de valeur relative. Toute marchandise dont la valeur doit être exprimée est un certain quantum d'une chose utile, par exemple 15 boisseaux de froment, 100 livres de café, etc., qui contient un quantum déterminé de travail. La forme de la valeur a donc à exprimer non seulement de la valeur en général, mais une valeur d'une certaine grandeur. Dans le rapport de valeur de la marchandise grand A avec la marchandise grand B, non seulement la marchandise grand B est déclarée égale à grand A au point de vue de la qualité, mais encore un certain quantum de grand B équivaut au quantum donné de grand A. L'équation 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile valent un habit suppose que les deux marchandises coûtent autant de travail l'une que l'autre ou se produisent dans le même temps. Mais ce temps varie pour chacune d'elles, avec chaque variation de la force productive du travail qui la crée. Examinons maintenant l'influence de ces variations sur l'expression relative de la grandeur de valeur. Grand 1. Que la valeur de la toile change pendant que la valeur de l'habit reste constante. Note de bas de page. L'expression « valeur » est employée ici, comme plusieurs fois déjà de temps à autre, pour « quantité de valeur ». Fin de la note de bas de page. Donc, grand 1, que la valeur de la toile change pendant que la valeur de l'habit reste constante. Le temps de travail nécessaire à sa production double-t-il par suite, je suppose, d'un moindre rendement du sol qui fournit le lin, alors sa valeur double. Au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous aurions 20 mètres de toile égale deux habits. Parce que un habit contient maintenant moitié moins de travail. Le temps nécessaire à la production de la toile diminue-t-il au contraire de moitié par suite d'un perfectionnement apporté aux métiers à tisser, sa valeur diminue dans la même proportion. Dès lors, 20 mètres de toile égale un demi-habit. la valeur relative de la marchandise grand A, c'est-à-dire sa valeur exprimée dans la marchandise grand B, hausse ou baisse par conséquent en raison directe de la valeur de la marchandise grand A, si celle de la marchandise grand B reste constante. Grand 2. Que la valeur de la toile reste constante pendant que la valeur de la bille varie. Le temps nécessaire à la production de l'habit double-t-il, dans ces circonstances, par suite, je suppose, d'une tonte de la laine peu favorable? Au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous avons maintenant 20 mètres de toile égale un demi-habit. La valeur de l'habit tombe-t-elle au contraire de moitié? Alors, 20 mètres de toile égale 2 habits. La valeur de la marchandise grand A demeurant constante, on voit que sa valeur relative exprimée dans la marchandise grand B hausse ou baisse en raison inverse du changement de valeur de grand B. Si l'on compare les cas divers compris dans grand 1 et grand 2, il est manifeste que le même changement de grandeur de la valeur relative peut résulter de causes tout opposées. Ainsi, l'équation 20 mètres de toile égale un habit devient 20 mètres de toile égale deux habits, soit parce que la valeur de la toile double ou que la valeur des habits diminue de moitié. Et 20 mètres de toile égale un demi-habit, soit parce que la valeur de la toile diminue de moitié ou que la valeur de l'habit devient double. Grand 3. Les quantités de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit changent-elles simultanément dans le même sens et dans la même proportion? Dans ce cas, 20 mètres de toile égale un habit comme auparavant, quel que soit leur changement de valeur. On découvre ces changements par comparaison avec une troisième marchandise dont la valeur reste la même. Si les valeurs de toutes les marchandises augmentaient ou diminuaient simultanément et dans la même proportion, leur valeur relative n'éprouverait aucune variation. Leur changement réel de valeur se reconnaîtrait à ce que, dans un même temps de travail, il serait maintenant livré en général une quantité de marchandises plus ou moins grande qu'auparavant. Grand 4. Les temps de travail nécessaires à la production et de la toile et de l'habit, ainsi que leur valeur, peuvent simultanément changer dans le même sens, mais à un degré différent ou dans un sens opposé, etc., l'influence de toute combinaison possible de ce genre sur la valeur relative d'une marchandise se calcule facilement par l'emploi des cas grand 1, grand 2 et grand 3. Les changements réels dans la grandeur de la valeur ne se reflètent point, comme on le voit, ni clairement ni complètement dans leur expression relative. La valeur relative d'une marchandise peut changer, bien que sa valeur reste constante. Elle peut rester constante, bien que sa valeur change. Et enfin, des changements dans la quantité de valeur et dans son expression relative peuvent être simultanés sans correspondre exactement.